Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant, Jean-Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
tes limites.
Il y a un coup de cul, il y a rien d'extraordinaire.
Bon, non, il y en a pas. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After. Vous l'avez compris, la petite musique historique, spéciale, drôle de dame. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui a enfin retrouvé son ami Bully. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Elle est pas mal celle-là.
Elle est très bien.
La référence, mon ami Bully.
Tu sais
Bully,
pourquoi, on dit Bully? Oui, bien sûr, mais en fait, c'est des expressions qui existent dans les familles parce que la Bundesliga fait tellement partie des familles allemandes que c'est comme une vieille tante, si tu veux.
Ah.
Et voilà, c'est comme ça.
J'aime bien.
Et Bully, c'est dans Nous irons tous au paradis. Enfin,
exactement. Bully, mon ami voilà. Bully.
Ouais.
Tout à fait.
Mon ami Bully.
Pour l'Italie, une drôle dame qui rajeunit de semaine en semaine quand la vieille dame se ride de jour en jour. Bonsoir, Johan Crochet. Non, c'est trop. En plus, t'as rien contre la Juve. Bonsoir, Johan.
Non, rien du tout. Bonsoir, messieurs.
Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui a préféré zapper un grand City Tottenham jeudi soir pour briller au bord d'un parc NBA façon Jack Nicholson. Bonsoir Julien Laurence, je ne te félicite pas.
Salut Nico, salut à tous. Je ne pouvais pas dire non à l'invitation de la NBA, c'est pas possible.
C'est à Bercy jeudi soir. Il y avait un gros match. Gilbert n'a pas eu le droit d'avoir Julien Laurence en fin d'after pour débriefer ce match. Parce que monsieur était là, tel un Spike Lee.
Comme Chouamini.
En court side, comme on dit.
Mais Chouamini, c'est le même problème.
Chouamini aussi.
Il était blessé.
Pareil.
Son équipe.
Chouamini Laurence, c'est la même galère.
Très important à Villarreal en Coupe du Roi. Et sans rien dire, il est venu à Paris alors qu'il aurait dû rester à Madrid devant sa
télé. Et le lendemain, il s'est excusé comme s'il ne savait pas que ça allait faire du bruit. Voilà. C'est marrant.
Exactement.
Bon, ouais.
Comme si c'était grave d'ailleurs.
Ouais. Comme si c'était grave en plus.
Je n'ai pas demandé la permission, oui.
Bon. Je lui ai demandé la permission au chef, on posera les questions tout à l'heure. Au grand chef de l'after. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui a déjà réservé sa place sur le bus à Impérial du RC Lens le 4 juin prochain.
C'est pas mal.
Voilà, tu seras ou pas?
Ah bah oui, attends, si on joue le titre, j'y vais. Là je sais pas, j'aurai une gastro ou quelque chose. Enfin, ou je me mettrai à genoux devant Gilbert.
Est-ce que tu iras avec ta parka Napoli que tu as amené ce soir
dans Génération
After?
Il fait très froid.
Donc, je crois que c'était à Crochet et là non, je vois Fredo arriver, Dodo avec
un cadeau d'un
Napoli, un entraîneur. À 22h donc, l'after avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars. Oui, effectivement, la parka Napoli de Fred, c'est un peu déstabilisant.
Déstabilisant.
Ah, une petite parka Valladolid, bon, je me dis, pourquoi pas.
Oui, parce que Dodo, le crâne dégarni, la parka Napoli, ça aurait pu être un crochet. Bah non,
sans déconner, c'est d'une chaleur, c'est un truc de fou, c'est tout léger.
Oui.
Et c'est de la qualité.
Ils ont quelques moyens, je crois, oui, pour.
C'est la même marque qui a fait les maillots de l'after, c'est de la qualité.
Ouais,
c'est vrai,
alors, à 22h tout à l'heure, on va parler Coupe de France. Il y aura la fin du match du PSG, voir si on a passé un bon week-end ou pas. Et puis, ça va naturellement nous emmener vers l'OM, vous avez vu le tirage hein, avec Marseille-PSG donc en huitième de finale, parce qu'il y a plein d'infos mercato de Marseille à partager. Florent Germain sera là, Florent Gautreau qui sera là, lui aussi veut faire un avis sur le mercato Marseille, la suite de la saison de l'OM, et Daniel veut aussi en parler. On parlera ensuite de Giroud et de son avenir en équipe de France. Vous avez vu que c'est un peu l'actu du jour suite à l'interview qu'Olivier Giroud a donné, et puis l'after va répondre à Rotten sans flamme, parce que oui, Jérôme Rotten a fait le procès de la politique de Longoria. On a écouté ça et on va répondre. On va faire la cour de cassation après le procès, enfin, l'appel et cassation.
C'est sérieux là, et condamnation peut-être.
Bon. C'est possible.
Ce sera à 22h, c'est tout Gilbert.
Le reste de l'actu du jour, enfin voilà, tout quoi.
Le débrief de Philippe Cassel PSG, bien sûr.
Bah, ça va dépendre du scénario. S'il y a 6-0.
Oui, t'as raison.
Ça dépend de
minutes d'histoire. Oui.
Oui. Oui.
C'est à partir de 22h avec Gilbert, donc vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport, Direct Studio pour envoyer vos commentaires. Évidemment, on suivra la rencontre d'un 16e de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le PSG. Je rappelle les affiches rapidement pour ceux qui nous rejoignent des 8e de finale qui se joueront dans la semaine du 7-8 février. Lyon-Lille, Toulouse-Reims, Angers-Nantes, PFC-Annecy, Virzon-Grenoble, Grenoble voire Virzon, mon cher Fred. Auxerre-Rodez et Lorient-Lens et donc Marseille-PSG ou Marseille-Pays de Cassel, coup d'envoi de ce match à 20h45.
T'as voulu voir Vierzon, on avait Vierzon.
Tout à fait. Messieurs, c'est parti, 15 secondes, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Je commence avec toi, Johan. C'est toi l'homme du soir là quand même.
Et évidemment, on va longuement revenir sur ce qui s'est passé en fin de semaine du côté de la Juve et la sanction.
les conséquences possibles, vous expliquez aussi pourquoi les clubs italiens et pas que la Juve font ce genre d'opération, et ça remonte à très très loin. On va évoquer ensuite rapidement le cas Zaniolo, qui faisait beaucoup parler avant que la Juve arrive sur la sphère médiatique, pour tout ce qui se passe autour de son avenir. Et puis une petite minute à propos de Sassuolo.
Fred.
Eh ben, on va parler d'une petite révolution au milieu de terrain du Real Madrid. Vous savez, Casemiro est à Manchester United. Et hier soir, match essentiel à Bilbao, victoire 2-0 des Merengues. Eh ben, Kroos et Modric sur le banc. On va parler aussi d'un extraordinaire Antoine Griezmann. Et on parlera du Barça, qui a fait une victoire de possible champion en jouant mal. Mais en l'important contre Retafe, avec un petit mot sur Daniel Alves et les excuses, prononcées après la rencontre par, Xavi Hernandez.
Julien.
Deux gros chocs chez moi en Angleterre, deux chocs très différents. D'abord le Liverpool-Chelsea, on s'est bien ennuyé. Et puis après le Manchester United, le Arsenal-Manchester United qui a été emballant, fantastique dimanche après-midi. On parlera aussi de West Ham qui a enfoncé un peu plus Everton, qui a limogé son entraîneur Frank Lampard Junior.
Polo.
Bah écoutez, on a eu une reprise avec 41 buts en Bundesliga, avec un dimanche assez extraordinaire, et on va débriefer la performance du Borussia Dortmund, 4-3 contre Augsbourg. Ensuite, le match d'après, bah c'était Leverkusen en Rhein Derby contre Mönchengladbach, victoire 3-2, l'équipe de Xabi Alonso, et 4 victoires à la suite. Et puis la petite minute sera pour monsieur Uli Hoeneß, qui était en tournée médiatique.
C'est une surprise la minute, pas la déflorer. Dommage, écoute.
Ah pardon.
Il y aura la musique, hein, qui fait office de surprise, bien sûr. J'ai même pas découvert le choix musical de Polo ce soir. On va voir ça.
Bon, mais je ne connais pas, donc.
Hein?
Que mes Polo, du coup, n'importe trop jeune.
Quoi, mais quel mépris. Mais non, bah, je connais des groupes qui étaient en activité quand j'étais pas né.
Ouais.
Je connais Jacques Brel, par exemple, tu vois.
C'est pas un groupe allemand.
Pas encore, pas du tout.
Il aurait pu.
Avant de dérouler vos points, messieurs, jusqu'à 22h, détour par la Coupe de France. Jeannot Rességuier est à Bollard, c'est justement Pays de Cassel, Paris Saint-Germain. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Et Jeannot, fais attention, hein.
Salut, drôle de l'air. Hein. Pardon, Fred, je suis chez toi.
Fais attention, hein, non, ça, tu casses rien. Hein.
Ouais, tu sais que ce soir, ils sont tous flamands, hein, dans le stade. Hein.
Ouais, ouais, c'est pas vraiment des ch'tis, quoi, c'est autre chose.
Bah, ouais. Ah, ça y est.
Mais tu connais, mais nous, tu vois, nous, les ch'tis, et nous, les artésiens, on accueille tout le monde. On est comme ça.
Ouais, c'est la Flandre intérieure. En tout cas, le pays de Cassel, et le stade va être plein. 38 000 spectateurs à guichet fermé. 17e match à guichet fermé à Bollard depuis le début de la saison, ce qui est quand même assez énorme. Et là, ce soir, c'est pas Lens. C'est donc un record dans l'histoire de la Coupe de France. C'est la plus grosse affluence pour un club de Régional 1 face à un club de Ligue 1. Et quel club? Le Paris Saint-Germain, le champion de France en titre, l'un des cadors du championnat, même si y a deux défaites à l'extérieur, une à Lens ici et une face à Rennes en Bretagne dans le championnat de Ligue 1, mais ils sont ultra favoris. La compo d'équipe vient de tomber à l'instant même. Navas dans les buts, Pembélé latéral droit de retour, donc confirmation, et ce qu'il avait joué lors du match à Riyad. Nuno Mendes à gauche, Sergio Ramos, Danilo en charnière, Vitinha, Soler, Renato Sanchez au milieu, Neymar, Mbappé et Ekitike pour les trois offensifs. On rappelle que Donnarumma et Messi n'ont pas fait le déplacement, qu'il y a aussi des joueurs blessés ou en reprise comme Kimpembe, comme Verratti ou Mukiele. Pour ce qui est du pays de Cassel, c'est la soirée de leur vie, une équipe qui évolue donc en Régional 1 et qui va avoir le plaisir d'affronter le Paris Saint-Germain avec donc Sanson dans les buts, Thor avec Smijac le capitaine pour la charnière, Centrin à droite, Rapaille à gauche, Leclerc, Boudjema, Brunel l'ancien joueur de Dunkerque au milieu de terrain, Sané, Le Ganaz l'attaquant buteur et Clément Bodansky. Voilà, ça leur fait plaisir de s'entendre ce soir, ou en tout cas pour leurs proches à la radio qui sont encore sur la route, qui arrivent, qui débarquent, plus de 21 bus, un train spécial. Bref, c'est une véritable fête ce soir pour deux joueurs. Elle sera plus particulière que pour d'autres. Smijac, le capitaine, et
oui, Boudjema,
le milieu de terrain. Ils sont tous les deux supporters du Paris Saint-Germain, mais pas que supporters et membres du CUP. Donc voilà, pour eux, c'est un match un peu particulier. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ils jouaient leur sixième tour de la Coupe de France contre Aumont, à Aumont. pas très loin de d'ici, et ils sont partis très vite à la fin du match. Ils ont même pas fêté la victoire. Pourquoi faire ? Pour pouvoir être présent dans les tribunes du Parc des Princes et assister au classique entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Ça sera un match très particulier pour eux, mais bon, vous l'aurez compris, si c'était un exploit, mais ce serait totalement extraordinaire, irréel. Irrationnel, même à la limite. Mais bon, sait-on jamais de ce qui peut se passer.
Ce qui serait dingue, c'est qu'il pourrait aller jouer Marseille au Vélodrome.
Exactement.
Un exploit, alors, c'est ça qu'il faut.
Jouer à la Bollard. Ça pourrait rentrer encore ici à Bollard, puisque oui. Vous savez qu'il a l'inversion par rapport aux différences de niveau. Bah, sinon, ce sera Marseille, Paris, Saint-Germain en huitième de finale, puisque tu l'as dit, le tirage au sort a été effectué tout à l'heure.
Merci, Jeannot. Coup d'envoi à 20h45. On suivra ce match avec
et
toi.
Un petit détail, si tu me permets. 45 bénévoles du club, 400 licenciés dans ce club, 45 bénévoles du club ce soir qui ne vont pas travailler, qui ne vont pas participer à l'organisation du match, puisqu'ils vont être invités comme des VIP par leur président, par les dirigeants du Racing Club de Lens qui ont mis le stade à disposition. Voilà, c'est l'occasion de les remercier. Je trouve que le geste est plutôt sympa.
C'est vrai que c'est sympa. Jeannot, à tout à l'heure pour le coup d'envoi de ce match Pays de Cassel, Paris Saint-Germain, 20h45 sur RMC. On fait une pause et on lance la soirée Drôle de Dame dans un instant. Le programme est magnifique, vous l'avez entendu. Vous écoutez RMC, Génération After, 20h11. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After, comme tous les lundis soirs de 20h à 22h, spécial Drôle de Dame avec Polo Breitner, Julien Laurent, Simon Crochet et Fred Hermel. Polo, die Bundesliga ist zurück. C'est on dirait un Turc qui parle allemand là, c'est Toulouse et j'ai fait allemand pourtant les gars, 6 ans d'allemand mais voilà, c'était loin. 65 jours plus tard, la lumière fut enfin, la Bundesliga est de retour et ça commence par un feu d'artifice de Thor. Ouais. 41 buts pour ce premier week-end de Bundesliga, 4,55 buts par match, c'est dingue.
Ouais, c'est
comment fou, tu l'expliques mais... on débat là-dessus ou on se dit ça dérange.
Il y a souvent des surprises, alors on est loin des records historiques, hein, mais si tu veux, c'est toujours compliqué lors d'une reprise de voir comment vont évoluer les équipes. Et il y a quand même des grosses surprises, le Wolfsburg qui écrase complètement un Fribourg qui est normalement très très solide, c'est bizarre. Cologne qui enfin s'est refait la cerise et qui en colle 7 en 7 au Werder qui n'était pas prêt. Il y a des choses comme ça, mais surtout, si tu veux, c'est là où il faut analyser la situation, parce qu'on va parler notamment du Borussia Dortmund. On a eu un dimanche de feu avec cette rencontre contre Augsbourg, qui est théoriquement une équipe de seconde partie de classement, où il y a eu 4-3. Donc, je conseille à tous nos auditeurs de revoir les buts, notamment ceux du Borussia Dortmund, tellement ils sont beaux, dont le dernier, celui de Giovanni Reina. Mais si tu veux, il y a le scénario 40e, 42e, 46e, 75, 76, 78, ça va d'un but à l'autre, etc. Et lorsque tu finis cette rencontre, t'es là, tu dis wow, fabuleux ce qu'on vient de voir, des phases de jeu extraordinaires du Borussia Dortmund avec un anglais, Bellingham, je suis désolé, qui est de plus en plus monstrueux. Je sais pas si vous voulez faire un hommage appelé Maradona en même temps, mais alors
non,
là
on va parler Bellingham parce qu'on n'a jamais pris trop le temps d'en parler. Julien aussi, tu vas être sollicité pour son avenir également parce que il semble filer tout droit vers l'Angleterre.
Il est suivi par le Real aussi.
Le Real aussi.
Pas sûr qu'on ait l'argent.
Pareil que City en rêve ou que lui rêve de City aussi. Bellingham, allons-y maintenant. Bon, il marque, au-delà de son but, il est phénoménal. Alors j'ai vu que tout le monde a repris son geste exceptionnel, là, son dribble qu'il aurait inventé. Double contact, semelle droite, talon gauche, grand pont. Bref, c'est un match fantastique, Polo.
Non, mais c'est extraordinaire déjà parce que c'est sa jeunesse. Moi, je l'ai toujours comparé à un Patrick Vieira, mais pour moi, il est déjà au-dessus par rapport à son volume offensif. Mmh. C'est-à-dire que c'est un vrai box-to-box. Vous voyez son physique, ses cuisses, à lui tout seul, il résout le problème de la fin dans le monde, quoi. Enfin, c'est complètement dingue le volume qu'il a. Alors évidemment, il fait des erreurs parce qu'il n'est pas toujours, donne pas toujours la balle dans le bon moment et tout ça. Mais ce volume de jeu qu'il a est impressionnant.
Il a un coffre.
Il a un coffre extraordinaire. Je crois que j'ai rarement vu un joueur si jeune. Si tu veux, j'étais un grand fan de Patrick Vieira et de Manu Petit avant. Mais si tu veux, lorsque tu vois un gamin de 19 ans comme ça, qui mesure 1m86, qui est dans sa surface pour défendre et qui se retrouve à la fin de l'occasion quasiment buteur ou passeur décisif après avoir éliminé 3-4 personnes, ça te fait quand même extrêmement bizarre. Donc Bellingham, il est impressionnant. Enfin, je veux dire, pour moi, et j'aime pas encore une fois valoriser trop les jeunes parce qu'on sait jamais comment ça va évoluer, mais si Bellingham n'est pas un jour un candidat au Ballon d'Or, je comprends pas. C'est-à-dire que son évolution est naturelle.
Et puis il a un nom qui claque. Jude Bellingham.
Ah ouais, ouais.
Oui, non, franchement, les gars. Ah ouais, la rythmique, le prénom, le nom.
Jude Bellingham, ça fait acteur ou ça fait chanteur des Beatles.
Quoi, bah, exactement ce que j'allais dire. Jude Bellingham. Vas-y, Polo, je t'ai coupé.
Donc, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors, il compense parfois. Il en fait trop, évidemment. À 19 ans, on sait très bien qu'il y a l'expérience. Il en fait trop parfois. Il faut dire qu'il n'a pas été aidé par Mokoko et Adeyemi, les deux autres jeunes de l'équipe, au passage, durant la rencontre. Mais son entente avec Julian Brand est extraordinaire. Mais, si tu veux, pour en revenir sur cette rencontre, t'arrêtes la rencontre. Tu te dis, ouah, j'ai vu un match extraordinaire. Et ensuite, tu redeviens consultant chez RMC.
Ça s'appelle 4-3 pour le Borussia.
Ouais, 4-3. Et tu te dis, oula, c'est quand même assez chaotique. Et j'ai envie de parler de Nico Schlotterbeck, qui est quand même le défenseur central allemand, qui a pas fait une belle Coupe du Monde. Là, il fait une boulette extraordinaire à 40e et il marque à la 42e, tu vois, pour redonner l'avantage à Dortmund. Et cette rencontre, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, il y a des buts fabuleux. Regardez un autre anglais, hein, qu'on va peut-être amener à parler dans l'avenir, qui est Bilou Aguitens, qui revenait de blessure. En parlant de blessure, évidemment, standing ovation à l'heure de jeu pour la rentrée de Sébastien Haller. Et là, donc extraordinaire au niveau de l'émotion. Mais là, le problème, et c'est ce qu'on avait vu à l'époque lors des matchs allés, lorsqu'il y avait Anthony Modeste qui était en pointe, ils veulent jouer toujours à plat, les joueurs de Borussia Dortmund, tout proche de l'herbe, ils savent pas lever le ballon. Et donc, Sébastien Haller, aussi talentueux soit-il, ne reçoit aucun ballon. Ça devient compliqué. Donc, toutes ces choses-là, si tu veux, à 3 semaines maintenant de la rencontre contre le club anglais de Chelsea, qui est, je trouve d'ailleurs, malgré tous ces petits soucis, enfin Julien en parlera mieux que moi, est quand même une équipe assez solide. Moi, ce que je vois aujourd'hui, j'ai eu un festival, mais alors l'équilibre, la balance, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là. Tiens, parlons justement de Chelsea. Dans 3 semaines, tu l'as dit, Polo, ce duel 8e de finale Ligue des Champions, le Borussia face à Chelsea. Julien, on a vu un bon match de ventre mou, Liverpool-Chelsea, 0-0 score final. Tu penses que, bon, il y a encore du temps, hein, on va parler de Mudryk dans un instant également, que ça peut être un 8e assez ouvert ou pas?
Je pense que ça peut être un 8e assez ouvert. Le match nul de Chelsea à Liverpool, c'est un match où personne ne veut perdre finalement, ni Liverpool ni Chelsea. Finalement, tu perds moins à faire un 0-0 comme ça que si tu avais perdu, si tu avais joué pour essayer de gagner et si tu avais perdu. Je pense que là, on aurait pu parler de crise encore plus pour un des deux vaincus finalement. Alors que là, 0-0, bon, Klopp a parlé de baby steps, de petits pas vers du mieux. Ça l'était pour Chelsea. Tu prends pas de but à Liverpool, c'est déjà très bien. Et puis en plus, on parlera de Mudryk tout à l'heure, mais t'as quand même l'excellente entrée en jeu de ta nouvelle recrue à...
Vas-y, millions, hein, tu peux en parler maintenant, hein, Julien, parce qu'effectivement, il a joué 40 minutes environ, il est entré à la 55e.
Ouais, alors on n'était pas sûr parce qu'il n'avait pas joué depuis novembre à cause de la Coupe du Monde et puis ensuite de la trêve hivernale pour les clubs ukrainiens. On n'était pas sûr dans quel état physique il était. Je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation par rapport au potentiel qu'il a et ce qu'on avait pu voir avec le Shakhtar dans la première partie de saison. Et finalement, il est entré dans un match, on l'a dit, hein, un match où il se passait pas grand-chose. Et il a été électrique, il a été exceptionnel de par ses accélérations, sa vitesse balle au pied, les dribbles, tout ce qu'on a pu voir, les petites talonnades, les passements de jambes, les crochets, tout ça. Il a transformé son équipe, il a transformé la rencontre. C'était magnifique à voir, c'était vraiment très très beau à voir. Maintenant, ça peut que aller mieux finalement parce qu'il sera de plus en plus prêt physiquement, il connaîtra de mieux en mieux son équipe, son entraîneur, la façon de jouer de Chelsea. On avait toujours dit, hein, que de toute façon le gros défi entre guillemets, le challenge pour Potter, c'était de pouvoir incorporer Mudryk dans cette équipe là et qu'il se sente bien.
Tu penses qu'il peut changer en partie Chelsea ou pas?
Sur ce qu'on a vu contre Liverpool, alors encore une fois, c'est une équipe de Liverpool qui est très moyenne, dans une équipe de Chelsea qui est très moyenne aussi. Mais ce qu'il a fait sur 40 minutes, c'était quand même assez exceptionnel par rapport à ce que le reste avait produit jusque-là dans la rencontre. C'était très beau à voir. Donc on verra maintenant comment ça va se passer. Est-ce qu'il est prêt à être titulaire le week-end prochain, par exemple? Je sais pas. Ce sera le match contre Fulham. Je sais pas si tu peux le mettre comme ça à domicile ou si tu encore une fois tu le fais entrer en jeu en cours de match. Il a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas sur ce qu'on a vu là,
ça va être l'attraction là maintenant.
T'as envie d'en voir plus.
Ouais, c'est ça exactement, Fred.
Une petite question par rapport au 8e de finale de Ligue des Champions. Parce que tu parles de Liverpool comme une équipe moyenne, de milieu de tableau, disait Nicolas. Tu dis que step by step, est-ce qu'il y aura assez de step justement de marche pour être à la mi-finale, je crois que c'est le 23, hein, le match.
C'est le 21 février, réception du Real, bien sûr. Hein.
Voilà, le Liverpool-Real. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui est capable, cette équipe de Liverpool, de se refaire une petite santé d'ici là, ou tu penses qu'elle restera encore une équipe moyenne? C'est dans 3 semaines, quoi.
Ouais, c'est dur à dire, Fredo, parce qu'ils ont été très bons en Ligue des Champions parfois. Il faut le reconnaître quand même. Hein. C'est l'équipe, la première équipe à avoir battu le Napoli, par exemple. Alors Napoli qui était déjà qualifié, c'est sûr, mais quand même, ils ont fait des, il y a eu des bonnes performances. Ils sont allés gagner 3-0 à l'Ajax. Alors l'Ajax aujourd'hui, ils sont cinquième dès leur édivisé, donc c'est pas non plus l'Ajax peut-être des grandes années, mais quand même, fallait y aller, marquer 3 buts, ne pas en encaisser. Donc il y a eu des meilleurs shows dans la Ligue des Champions qu'en championnat. Ça, d'accord, c'est sûr et certain. Il y a aucun doute là-dessus. Après, c'est quand même très compliqué en ce moment pour marquer des buts, pour ne pas en encaisser, pour trouver le bon 11 de départ avec la bonne dynamique. C'est compliqué quand on voit ce que Mudryk a apporté en 40 minutes et ce qu'on voit, et on voit Gapko par exemple qui a quand même un petit peu de mal à se mettre dans le rythme parce que l'équipe autour de lui à Liverpool a du mal à fonctionner. C'est vrai que comme ça sur le papier, t'as du mal à voir comment cette équipe de Liverpool pourrait vraiment poser beaucoup beaucoup de problèmes au Real. Mais après, en Ligue des Champions, comme je te dis, ils ont été meilleurs qu'en championnat.
Transition toute faite. Merci Fredo. Le Real donc qui remporte un match qui fait du bien ce week-end à Bilbao, 2-0. Et là, cher Fredo, j'attends un mea culpa de ta part. Tu nous as dit la semaine dernière que Eduardo Camavinga, et j'étais d'accord avec toi en plus, c'était un joueur d'impact de dernière demi-heure.
Bien sûr, ouais.
Il a débuté contre Bilbao, à Bilbao, il a été excellent. Et on va parler du banc de touche du Real surtout.
Ben oui, alors, parce que hier le Real Madrid, dans un des trois déplacements les plus compliqués de l'année. C'est-à-dire que quand tu es le Real Madrid, tu as trois dates à l'extérieur que tu regardes, c'est au Barça, c'est à l'Atlético, et c'est à Bilbao. C'est vraiment, parce que j'ai souvent dit, mais l'Athletic Club, comme on dit en espagnol de Bilbao, est une équipe qui n'est jamais descendue en deuxième division, tout comme le Real et le Barça. Et c'est vraiment, l'ambiance est géniale, le nouveau San Mamés, etc. Et hier, pendant 20 minutes, ils se sont fait bouffer les Madrilènes. Mais c'est comme ça tout le temps, parce que il y a une énergie des Lions.
C'est des plus grosses ambiances en Espagne, tu dirais?
Ah oui. San Mamés. San Mamés, c'est surtout quand il y a le Real en face. Et ou la Real Sociedad, qui est pour le derby. Donc, Et tu regardes le 11 de départ, normalement, en 11 de départ, mais t'as Kroos et t'as Modric quand ils sont disponibles, quoi. Enfin, je veux dire, tu te poses même pas la question. Et la Kroos était sur le banc, alors qu'il avait été sorti le match précédent, qui était un match compliqué de Coupe du Roi à Villarreal. Et Modric, il est rentré en fin de rencontre lui aussi, il était sur le banc là, mais il avait même pas été convoqué pour le match précédent à Villarreal. Donc tu te dis, Carlo Ancelotti prend un risque énorme, parce qu'il met Camavinga, il met Valverde et il met Ceballos au milieu de terrain pour aller jouer à Bilbao. C'est très osé, mais c'est parce qu'il doit estimer que l'état de forme de Modric, et je dirais même de Kroos, est inquiétant. Physiquement, on sent qu'il y a
alors Modric, il a pour lui qu'il revient à un mondial jusqu'en voilà, petite finale.
Kroos, pas,
il a fait toute la durée. Et Kroos, en revanche, est-ce qu'il n'y a pas plus un doute sur l'avenir de Kroos finalement au top niveau que celui de Modric?
Si, et d'ailleurs, et Kroos, c'est pas quelqu'un qui va s'installer. Il veut renouveler là maintenant que d'année en année. Bon, c'est ce qui est la politique au Real, mais il va pas se traîner. C'est-à-dire qu'il va pas essayer de gratter une saison de plus comme ça. Lui, il veut partir bien, quoi. Et c'est tout à son honneur d'ailleurs. Mais c'était très étonnant. Donc, quand j'ai vu le 11 présenté par Carlo Ancelotti hier, je me suis dit, oulala, il prend un risque. Parce que si ça marche, c'est Carlo, t'as des cojones, c'est un génie. Si ça marche pas, c'est oulala, comment t'as pu jouer ce match-là sans
cette. Il commençait doucement à être sous pression, hein, l'ami Carlo.
Oui, oui. Alors, il y a eu la victoire à Villarreal en coupe après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, qui a un peu relancé la machine. Mais hier, ils font un très bon match, le Real. Hein. Ils font un très bon match. C'est-à-dire qu'ils tiennent bien les 20 premières minutes. Quoi qu'il arrive, j'en ai vu des milliers de matchs comme ça où Bilbao est à fond et le Real doit souffrir sans rompre, quoi, tu vois. Et après, bon, il y a eu vraiment un milieu de terrain très très bon avec un Ceballos qui a été très calme, très très calme. On sent qu'il prend de la maturité, quoi, voilà. Donc, avec un excellent Asensio. Attends, le retour d'Asensio, moi, il me fait plaisir. Donc, j'écoutais tout à l'heure Polo quand il parlait de Jude Bellingham. Moi aussi, je voyais Asensio un futur ballon d'or. Sauf qu'entre temps, il s'est fait les croisés et puis il a découvert la fête à Madrid.
Et, oui.
Et vraiment, il avait tout pour être un très très grand. Mais, on va donner un peu de nouvelles de Karim Benzema. Il met un but, il fait un bon match, mais je trouve qu'il n'a pas encore le niveau qu'il avait la saison dernière.
Mais il est efficace, 6 buts, c'est 6 derniers matchs avec le Real.
Non, mais son but, sa reprise, elle est incroyable, quoi. C'est une demi-volée.
En se retournant.
En se retournant, enfin, c'est fabuleux. Mais il y a encore dans le jeu de Karim Benzema des fautes techniques très étonnantes chez lui.
D'accord.
Il n'est pas encore à 100% de sa confiance. C'est-à-dire que, et même moi, des fois, on dit mauvaise passe, mauvais contrôle, etc. Donc, le Real a fait un bon match hier avec un Benzema qui, par rapport au reste de l'humanité. Et la moyenne des footballeurs, Benzema est au-dessus de tout le monde. Mais, enfin, en tout cas, de la plupart des joueurs. Mais c'est pas encore le vrai Benzema quand on le compare à lui-même. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui par rapport au milieu de terrain, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse ce soir et ce qui peut surprendre les gens qui suivent souvent le Real. Il y a le derby en coupe, quart de finale, match unique contre l'Atlético, à Bernabéu jeudi. Est-ce que Carlo Ancelotti va oser mettre un 11 sans Modric et sans Kroos?
Là, ça aura du sens, tu penses?
Ça aura beaucoup. Alors là, ça aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens.
Voilà pour le Real. On sera là jeudi soir pour ce match. T'as raison. Hein. Ouais, Real, super, ouais. Atlético de Madrid. On parlera de Griezmann tout à l'heure également. On parlera aussi de Dani Alves, hein, qui à l'heure où l'on se parle est derrière les verrous.
Il est en prison.
Tout simplement. Il est en prison. Tout simplement. On en parlera tout à l'heure également. C'est l'heure de la première minute de ces drôles de dames. Elle est pour toi, mon cher Johan Crochet. De quoi nous parles-tu ce soir, Polo? Envoie la musique, s'il te plaît. Bon rap italien.
Exactement. C'est Broken Speakers avec un feat d'un groupe de hip-hop romain. C'est Alti et Bassi, donc c'est facile à traduire, des hauts et des bas. Et c'est pour raconter un petit peu ce qu'est en train de vivre Sassuolo. On a souvent parlé de Sassuolo dans la première moitié de classement, une équipe un peu modèle avec une politique sportive et économique tout à fait fluide et bien gérée. Sauf que là, ils ont peut-être vu un peu trop gros au niveau des ventes cet été, parce qu'ils ont perdu Raspadori, ils ont perdu Scamacca. Moi, j'ai eu beaucoup de doutes sur la perte des deux. Autant perdre un autre joueur dans une autre ligne pouvait passer, mais quand tu perds les deux tiers de ton attaque, en plus tu as perdu Djuricic, qui était un 10 assez régulièrement utilisé, donc ça veut dire trois quarts de ton attaque, avec des blessures monstrueuses, Berardi, et c'est pas rien pour Sassuolo, longuement blessé, il a quasiment pas joué de la saison, Ahmed Traoré pareil, on a même Maxime Lopez qui était blessé, Consili, le gardien, est blessé, donc y a, vraiment c'est une saison où rien ne va, où rien ne tourne dans le bon sens. Ça remet pas en cause la politique de Sassuolo, mais attention, je commence à avoir des achats à 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, 25 millions d'euros. Quand tu commences à avoir beaucoup de rentrées d'argent, attention à pas voir un peu trop gros, parce que quand tu te rates sur un joueur à 10 millions d'euros, Sassuolo a les moyens de gérer ça. Quand c'est un joueur à 20, 25 millions d'euros, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Donc pour l'instant, ils sont 17e. C'est vraiment ric-rac, cric-crac, comme dirait Laurent Blanc, je crois.
C'est ça.
Ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation, donc c'est pas énorme. Et attention au calendrier, dans les 4 prochains matchs de Serie A, il y a le Milan, l'Atalanta et le Napoli. Rien que ça. Donc,
attention.
Dans cette série de 4 matchs.
On pense à Maxime Lopez également.
Dans cette série de 4 matchs, on pourrait avoir, à condition évidemment que les Las Véron gagnent beaucoup, mais un Sassuolo relégable.
Tu nous présenteras tout à l'heure hein, l'éventuel probable recrue de l'Olympique de Marseille, Ivan Illich, un joueur de Las Véron justement. Tu nous diras ce qu'il vaut réellement. Beaucoup de questions déjà hein, pour ce joueur sur la chaîne Twitch RMC Sport et sur Direct Studio. Pause dans Génération After, spécial drôle de dame. Tout à l'heure, on parlera de Arsenal également, qui est impressionné face à Manchester United. Tiens, alors Julien va nous parler d'Edouard Nketiah, un peu plus son histoire. Qui est-il pour ceux qui le découvrent ces dernières semaines à la tête de l'attaque d'Arsenal? Restez avec toutes ces générations à faire sur RMC les 20h30. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Johan Crochet, Fred Hamel, Julien Laurence et Paulo Breitner. Comme tous les lundis soirs, elles sont réunies toutes les quatre de 20h à 22h. Génération After spécial drôle de dame. Je vous rappelle qu'à 20h45, on suivra aussi le dernier de la 16e de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain avec Jeannot Rességuier. Et qu'à 20h45 également, c'est le traditionnel quart d'heure des auditeurs face au drôle de dame. Appelez le 32-16. Max est là pour vous répondre et vous permettre de poser vos questions à Fred, Julien, Johan et Paulo. Julien, dirais-tu que tu as vu le match de la saison en Première Ligue hier, celui qui a débuté à 17h30. Par français.
Ouais, en tout cas un des matchs de la saison, effectivement, Arsenal contre Manchester United, on avait hâte parce que c'était encore un gros test pour Arsenal vu la forme dans laquelle était Manchester United, même sans Casemiro qui était suspendu, et c'est une des raisons ou une partie du problème pour United qui fait qu'Arsenal l'a emporté, parce que cette équipe de Manchester sans Casemiro, c'est forcément pas du tout la même, tant défensivement qu'offensivement avec le ballon. Et on a vu les limites de cette équipe de United hier contre Arsenal à l'Emirates sans Casemiro, où finalement le seul plan de jeu était de donner le ballon à Marcus Rashford et d'espérer que l'international anglais fasse quasiment des miracles. Il a marqué le premier but, il a failli en mettre un deuxième tout seul aussi.
Super United premier a marqué but, un magnifique.
Ouais. Super premier but, ouais, c'est vrai. United a réussi à marquer un deuxième but sur coup de pied arrêté contre le cours du jeu en seconde période, mais du début à la fin, Arsenal a été la meilleure, a dominé, ils ont touché le ballon, on l'expliquait hier soir dans l'after. Ils ont eu 63 touches de balle dans la surface de réparation de Manchester United. 63, c'est le plus haut total en Premier League cette saison, toute équipe réunie, tout match confondu. De l'autre côté, United a touché le ballon 12 fois dans la surface d'Arsenal. Alors, t'es pas obligé de toucher beaucoup le ballon dans la surface adverse pour marquer des buts, bien sûr. Mais ça montre quand même, ça démontre en tout cas la domination d'une des deux équipes. C'était beau à voir la façon dont Arsenal a mis sous pression cette équipe de Manchester United lors des 20 dernières minutes pour aller trouver la faille et trouver ce troisième but pour gagner 3-2. Ils ont tiré 25 fois au but, ils ont eu leur plus haut expected goals de la saison avec 3,2. Donc c'est vrai, ça a montré encore qu'Arsenal était le favori pour être champion. Ils ont 50 points à la mi-saison, donc après 19 matchs.
C'est possible, c'est dingue.
Ils ont jamais eu autant de points dans toute leur histoire, notamment en première ligue. Il y a que 5 équipes en première ligue qui a eu plus de points à la mi-saison que Chelsea avec Mourinho, bien sûr, 2005-2006, le Liverpool de Klopp et le Manchester City de Pep Guardiola. C'est ça, 55 points, 51 points, 52 points. Et Arsenal maintenant avec 50 points rejoint cette élite là parce que
Napoli a aussi 50 points. D'Arsenal à l'époque en termes de rythme.
Exactement. Tout à fait. C'est vrai.
Comment on commence ce Arsenal en Angleterre justement? Est-ce que tout le pays est enthousiasmé et admiratif, ou le jeu des rivalités empêche de partir dans des délires, des loges et autres, Julien?
Non, un petit peu des deux. C'est vrai que tout le monde reconnaît que le style de jeu, la philosophie d'Arteta, la direction que cette équipe a prise depuis son arrivée au club, ce qu'ils sont en train de construire, ce qu'ils sont en train de faire est très impressionnant. C'est vrai, et qu'ils jouent très très bien. Après, bien sûr que les rivalités, les derbies font que supporters de City, de Liverpool, de Chelsea, de Tottenham vont pas s'enflammer pour Arsenal, bien sûr. Mais c'est vrai que globalement, on reconnaît l'incroyable travail qu'a fait Arteta, mais pas simplement. Et on n'a pas trop le temps non plus, mais sur le terrain, bien sûr, on le voit aujourd'hui, la façon dont cette équipe-là joue, son jeu de position qui est assez exceptionnel, les individualités. On a vu encore Bukayo Saka extraordinaire dimanche, le collectif aussi. Mais c'est le recrutement qu'ils ont fait depuis 3 ans, c'est qu'ils se sont débarrassés des joueurs qu'ils ne voulaient pas, qui finalement n'étaient pas dans le moule de ce qu'Arteta voulait faire. Les Aubameyang, les Ozil, etc., etc. Ils sont allés recruter intelligemment des jeunes joueurs. Parfois, ils ont dépensé beaucoup d'argent. 50 millions pour un Ben White, par exemple, c'est beaucoup. Ils ont aussi eu un petit peu de chance avec un Saliba, par exemple, qui était là avant l'arrivée d'Arteta. Mais quand tu vois l'effectif aujourd'hui et cette dynamique positive, et ce qu'Arteta voulait à son arrivée, c'était que tout le club, finalement, parle le même langage, tire dans la même direction, et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Il a créé cette unité assez incroyable de la personne qui fait l'été, les jours de match, jusqu'au propriétaire.
Julien, petite question. Tu parlais du montant de transfert de Ben White. C'est un des plus gros transferts en montant de cet effectif-là, Arsenal, non?
Ouais, avec Partey, 50 millions d'euros pour Partey, un tout petit peu plus pour Ben White.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur... parce que moi j'ai un peu ça avec le Napoli en Italie, en fait. Sur la qualité de jeu déjà, et tu as déjà répondu, mais sur aussi la base salariale, le montant des transferts par rapport à des concurrents. Tu vois, par exemple, Modric à 100 millions, Darwin Núñez à 100 millions, Anthony à 100 millions, Haaland à je sais plus combien. Tu vois, tous les autres clubs, ils mettent des 100 millions d'euros, des 80, des 90, des 100 millions sur les joueurs. Là, finalement, peut-être que le modèle d'Arsenal est aussi un modèle à suivre pour d'autres clubs, plutôt face à des clubs comme Chelsea qui balancent et qui arrosent sans arrêt, quoi.
Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a une synergie entre Arteta et Edu Gaspar, donc l'ancien joueur d'Arsenal et du Brésil qui est aujourd'hui le directeur sportif. Vinay Venkatesan qui est le directeur général du club, le CEO du club. Mais après, ils ont choisi cette voie-là. Ils auraient pu faire autrement. Je pense que les Kroenke auraient pu, par exemple, investir encore plus d'argent. Mais le problème, je crois, Yo, c'est qu'il y avait tellement finalement de joueurs à aller chercher, de joueurs à laisser partir, à vendre, à prêter, à terminer les contrats. Et d'autres à aller chercher, que finalement il fallait que tu le fasses de manière intelligemment, même si tu aurais pu dépenser un peu plus pour certaines individualités. Mais après, ils sont quand même allés chercher beaucoup beaucoup de joueurs. Quand tu signes 6, 7, 8 joueurs par marché des transferts, tu peux pas non plus trop dépenser à chaque fois ou surpayer parce qu'au final ça te coûtera beaucoup trop cher. Donc ils ont dû faire aussi les choses différemment par besoin, par nécessité.
Mais tu vois,
s'ils avaient besoin peut-être que d'un ou deux joueurs, oui, mais...
Parce que Liverpool, ils ont choisi de mettre 160 sur deux joueurs offensifs, mais par contre, le milieu de terrain qu'il faudrait renouveler,
c'est vrai.
Où ils ont fait un choix différent, et c'est un peu difficile en ce moment, quoi.
Ouais, c'est vrai aussi.
Un mot quand même, Julien, sur d'un joueur dont on a peu parlé de lundi soir dans le Dame, c'est Eddie Nketiah. Aucune titularisation en Première Ligue avant le Boxing Day. Il remplace Gabriel Jesus blessé. Il marque 6 fois en 6 titularisations. Raconte-nous un peu son histoire à ce joueur qui a quand même 23 ans déjà, hein, et que l'Angleterre ne découvre pas en revanche.
Non, c'est vrai, parce qu'il a été très bon par exemple avec l'équipe anglaise Espoir, mais c'est un joueur qui était au centre de formation de Chelsea, qui n'a pas été conservé quand il avait 14 ans je crois, ou 15 ans, qui a ensuite donc rebondi au centre de formation d'Arsenal sans qu'il y ait des doutes, mais c'était pas la grande star du centre de formation comme a pu l'être un Bukayo Saka par exemple, ou d'autres avant lui, et c'est quelqu'un qui a dû travailler beaucoup, est parti aussi en prêt un petit peu, a finalement signé, prolongé son contrat la saison dernière alors qu'il arrivait en fin de contrat l'été dernier. Alors qu'on savait que Arsenal est sûrement recruté un grand numéro 9 ou un vrai numéro 9. Ils ont fini par faire Gabriel Jesus, mais ils lui ont donné beaucoup d'argent aussi à Eddie Nketiah parce qu'il croyait en lui. Et je pense qu'il y avait beaucoup de pessimisme autour de sa titularisation après la blessure de Gabriel Jesus. Alors que c'est un joueur, si tu l'as vu jouer une fois, c'est pas parfait, bien sûr. On l'a vu contre Tottenham où il rate deux grosses occasions. Mais c'est un joueur qui est très bon dos au but, qui court beaucoup, qui presse, qui contre-presse énormément, qui a vraiment un gros coffre physique. C'est un joueur qui a une très belle mentalité, qui est un joueur du cru, puisque arrivé à 15 ans en centre de formation, c'est un joueur à toi, donc je pense qu'il porte ce maillot avec beaucoup de fierté. C'est quelqu'un qui habitait dans une famille d'accueil, pour être près du centre de formation de l'académie, donc à deux maisons de chez moi. Pas mon voisin direct, mais celui d'après, effectivement. Avec Lina, qu'on embrasse. Ah, et oui. Donc, c'était un très très bon gamin. Il a toujours été très très bon et il a jamais oublié d'où il venait. Et je pense que c'est ça aussi l'état d'esprit qui plaît à Arteta. C'est que il y avait beaucoup de pression sur ses épaules quand il a pris la suite après la Coupe du Monde de Gabriel Jesus. Et je pense que c'était pas facile. Le premier match contre West Ham, tu sentais qu'il forçait un petit peu son jeu parce qu'il avait cette pression de absolument devoir marquer un but pour montrer qu'il méritait d'être là. Le but est venu finalement en seconde période. Et puis depuis, tu l'as dit, hein, c'est une série assez incroyable.
6 buts en situation pour Eddie Nketiah, effectivement. Dans un instant, le coup d'envoi du match de Coupe de France, le dernier 16e de finale entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain. Mais d'abord, Fred, il est 20h42, la minute de Fred Hamel. Envoie la musique, Paul Vexiou. Magnifique. Voilà.
Violetta Cipariales, Violette Impériale. Voilà, c'est Luis Mariano. Luis Mariano, tout le monde pense qu'il est français. Ben non, il était basque espagnol. Et pourquoi un chanteur basque espagnol, chanteur d'opérette? Ben parce que je vais vous parler de la Real Sociedad. Alors déjà, j'ai plusieurs fans de la Real Sociedad qui me suivent sur Instagram, qui me disent, mais tu ne parles jamais de la Real Sociedad. Pourquoi? Parce que j'attendais pour voir. Parce qu'ils me disaient, ben oui, mais la Real Sociedad, regarde, on est troisième. Ben oui, mais vous êtes troisième tous les ans. En septembre, en octobre. Mais à partir du mois de novembre, et ben, ça coince, ça descend, et puis après Noël, on vous voit plus. Et ben là, regardez, on est presque en février. La Real Sociedad, troisième de la Liga, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, ce sera mercredi, au Camp Nou face au Barça, et qualifiée comme premier groupe, donc déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ça commence à être du sérieux. En plus, ils ont perdu la Real Sociedad, leur meilleur attaquant, Alexander Isak, qui est parti à Newcastle. Et ben voilà, la Real Sociedad fonctionne et elle a des stats de malade. La Real Sociedad, c'est 21 victoires en 28 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. 75% de victoires. Il n'y a qu'une équipe en Europe, parmi les 5 grands championnats, qui fait mieux. Arsenal, 22 victoires. Et il n'y a que le PSG pour être à la deuxième place en Europe. Pourquoi? Alors qu'il n'y a pas énormément d'argent. Mais il y a beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup de blessés, donc Alguacil, l'entraîneur, a beaucoup pioché dans l'équipe réserve. Il a fait jouer 33 joueurs et 22 étaient formés au club. Donc voilà, la réussite de la Sociedad, c'est pas le football bling bling. Il a fallu vendre pour avoir un petit peu d'argent, mais on forme bien les joueurs. Et puis là, et on va espérer que ça continue pour la Sociedad. La fameuse fringale qui arrive en général à l'automne, eh ben ils l'ont pas cette année. Ils ont passé l'automne. Et on espère pour la Real, parce qu'on l'appelle comme ça en Espagne, la Real. On espère qu'elle passe l'hiver.
Et puis on s'intéressera un jour à Robin Lenormand aussi, hein, titulaire indiscutable défense centrale de la Real Sociedad.
Un des bons défenseurs centraux de la Ligue espagnole.
Dont on parle très très peu en France, lui qui a 26 ans.
Ah, joueur en Angleterre, hein. Deschamps l'aura dit.
On a aussi Mohamed Ali Chou, hein, qui joue à la Real Sociedad. Le coup d'envoi, Jeannot Séguier, dans quelques secondes de ce dernier 16e de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain au Stade Bollard. Le vainqueur de ce match affrontera l'Olympique de Marseille en 8e de finale. finale. Jeannot.
Oui, plein de belles images pour les joueurs amateurs de Régional 1, soutenus d'abord par 38 000 spectateurs à Bollard. C'est la 17e fois cette saison que le stade du Racing Club de Lens affiche complet. Cette fois-ci, c'est pour un match de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Des Parisiens tout de blanc vêtus avec Navas dans les buts, Pembélé à droite, à gauche Nuno Mendes, Danilo Ramos pour la charnière, Vitinha, Soler, Renato Sanchez au milieu de terrain, Neymar et Kitike et Mbappé pour le secteur offensif. Messi et Donnarumma ne sont pas du déplacement, et pour les amateurs, c'est une équipe classique qui a été alignée par Samuel Goethals. Rien à voir avec Raymond Goethals, mais c'est l'entraîneur de cette formation de Pays de Cassel. Sanson dans les buts, Thor, Smijac avec la défense centrale, Centrin à droite, Rapaille à gauche, Leclerc, Boudjema, Brunel sur le milieu de terrain, et puis Sané, Le Ganaz et Clément Boganski pour le secteur offensif de cette équipe de Régional 1 qui va prendre la photo pour les joueurs parisiens et les joueurs du Pays de Cassel. C'est quatre clubs réunis qui ont déjà fusionné dans un premier temps. C'est six communes de, au total, 6500 habitants, 400 licenciés face à l'ogre du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement la Flandre intérieure, le Lyon qui est là, des Flamands avec les géants du carnaval qui étaient là aussi, la musique du carnaval avec la particularité des géants le lundi de Pâques à Cassel. Eh bien, tout le monde est là ce soir, tous les élus de la région Flandre, de la région du Nord aussi et des Hauts-de-France pour participer à cette fête incroyable. Et pourquoi pas vivre un moment sympa, en espérant bien évidemment que les amateurs pourront tenir le choc face au Paris Saint-Germain. Les U14 sont ramasseurs de balles, les U11 sont venus accompagner les joueurs et les tout petits bouts de chou débutants sont là pour aller donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est ça aussi la magie de la Coupe de France, avec, on le disait tout à l'heure, 45 bénévoles du club qui sont invités ce soir en loge et qui ne participeront pas donc comme ils ont l'habitude de le faire lors des rencontres de championnat de Régional 1, ou en accompagnant les jeunes, les gamins, les moins jeunes dans la vie du quotidien de ce club d'une fusion de 6 communes, donc avec une fusion qui est intervenue en 2018 de Régional 3, puis en Régional 2, puis en Régional 1 maintenant. Ils sont 3e au classement et ils veulent grandir petit à petit, mais ils veulent surtout apprécier ce soir, comme viennent le faire les 3 gamins, avec Kylian Mbappé qui a le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain. C'est Willy Delageau qui va être l'arbitre de cette rencontre et qui va très certainement dans quelques secondes libérer les acteurs et libérer ces joueurs amateurs qui ont pris le temps de se retrouver tout à l'heure à la mi-journée pour prendre le bus ensemble. Chacun a un travail, qu'il soit éducateur, boulanger, pâtissier, électricien comme le capitaine Smijac, ou aussi supporter du PSG comme Smijac justement, et Boudjema qui font partie des ultras. Voilà, c'est parti, coup d'envoi donné par Kylian Mbappé avec Renato Sanchez, premier ballon pour les Parisiens, avec Neymar dans la moitié de terrain du PSG pour ses toutes premières secondes de ce dernier 16e de finale de Coupe de France.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, sur ce match avec toi tout au long de la soirée, bien sûr, la génération after Drôle de Dame. Dans un instant, le quart d'heure des auditeurs face au DDD. Vous nous appelez au 32-16. Il y a déjà beaucoup d'appels. Vos questions à Johan, Julien, Polo et Fredo. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, génération after.
Nicolas Jamin.
Génération After spécial Drôle de Dame avec Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet. Très rapidement, Jeannot, en quelques secondes, c'est parti depuis 2 minutes entre le PSG et le Pays de Cassel.
Allez, 0-0, le ballon pour les Parisiens, vous vous en doutez. Une première occasion complètement manquée par Soler. C'est venu de la gauche. Il a un petit peu trop ouvert son pied et c'est passé à côté du but de Sanson. Les jeunes joueurs du Pays de Cassel, enfin les jeunes, les amateurs, parce qu'il y a quelques trentenaires, n'ont pas encore franchi la ligne médiane pour l'instant. 3 minutes quasiment de jeu et 0-0 entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain.
Loïc est avec nous, 32-16. Salut Loïc.
Salut messieurs.
Bienvenue dans Génération After. Les drôles dames t'écoutent. Question pour qui, mon cher Loïc?
Alors, moi, je souhaitais avoir des renseignements sur notre ami Illich.
Ah, Ivan Illich.
Je pense Lénine, hein, mais est-ce que c'est un produit fini, comme dirait Longoria, ou est-ce que c'est un produit brut qu'il faut continuer à polir, un futur diamant?
Question pour Johan Crochet, donc, puisqu'il joue à l'Hellas.
Exactement, Johan.
Bon, produit fini, non, il est encore très jeune, donc il a encore le temps de
de progresser. Et très sincèrement, tu peux pas être un produit fini à cet âge-là. Après, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Évidemment, tout de suite, on va parler du fait qu'il a joué sous Tudor et donc il connaît le système, ce que demande Tudor à ses joueurs, etc., etc. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il est élégant, pied gauche, soyeux, très bonne technique. Je trouve que c'est un peu en train de progresser, mais je le trouve un peu trop timide parfois. J'aimerais qu'il prenne un peu plus de risques parce qu'il a la qualité technique pour tenter des passes compliquées. Il a la qualité, la prédominance physique pour aller un peu plus au duel. Je pense que c'est plus un truc d'esprit que physique ou technico-tactique en fait. Mais encore une fois, il est assez jeune, il a le temps, mais
21 ans,
dans la capacité à imprimer le tempo, à aller faire du pressing, tout ça, il sait faire, il connaît tous les mécanismes, jouer à deux, jouer à trois, il sait faire. Il y a pas de problème. Il a quand même un peu de personnalité, mais je trouve qu'il en manque encore dans cette verticalisation qu'il doit apporter dans une équipe qui doit être très verticale. L'Hellas Vérone avec Tudor l'était. Moi, je trouvais que c'était pas, par exemple, le milieu de terrain qui brillait le plus sous Tudor. Là, cette saison, l'Hellas Vérone ne marche pas. Il reste au-dessus du niveau parce que, je vais me répéter, mais techniquement, il est ultra fiable. Mais par contre, j'aimerais qu'il soit un peu plus volontaire dans cette idée d'aller vers l'avant. Je trouve qu'il assure parfois un peu trop. Alors ça peut être un défaut de jeunesse, de vouloir trop assurer, de
trop horizontal,
propre, parfois clean, etc. Mais parfois, il faut oser prendre plus de risques. Parce qu'en plus, quand t'as pas cette qualité-là, pourquoi pas? Mais quand tu l'as, je trouve ça dommage parfois de pas assez le tenter. Mais honnêtement, c'est un vrai bon joueur. Moi, je l'avais profilé pour la radio digitale au moment de la Coupe du Monde
sur RMC.
Et moi, c'est un joueur que j'adore, qui est élégant, donc c'est ma cam forcément, et qui en plus a cette densité physique. Il lui reste un cap à passer sur comment être plus décisif dans la construction et comment être plus décisif dans le secteur offensif pour son équipe.
Et quand Tudor le connaît, il sait parfaitement ce qu'il peut en tirer, quelle est sa marge de progression pour l'Olympique de Marseille. Merci Loïc.
Merci.
Réponse de Johan. Chest est avec nous au 32-16. Je crois comprendre pour qui la question va être dirigée. Salut Chest.
Salut monsieur, bonsoir, comment allez-vous?
Chest, bon, salut Chest. Malheureusement, je crois que c'est plutôt britannique, mon cher Fredo.
Fabregas en Angleterre, il a beaucoup joué.
Un homme de goût.
Un homme de goût. Chest, question pour Julien Laurence.
Oui, question pour Julien. Alors, Julien, est-ce qu'on peut enfin, parler de Bukayo Saka dans la même phrase que tous ces jeunes Anglais qui font partie de la génération dorée qui arrive, c'est-à-dire les Phil Foden, les Bellingham ou même les Rashford, parce que moi qui suis ici à Londres, il y a encore beaucoup de personnes il y a quelque temps qui pensaient que Bukayo Saka était surcoté, et même sur RMC, je me rappelle, avec tout le respect que j'ai pour Daniel Riolo, il avait fait ses chapeaux, il avait préféré prendre Pulisic au lieu que de Saka, et ça faisait beaucoup réagir sur le plateau à l'époque, et moi aussi de mon côté quoi. Donc je voulais ton avis là-dessus aussi.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il fait partie des tout meilleurs. Il y a pas de là-dessus. Peut-être c'est le fait qu'il soit trop gentil, enfin qu'il est trop gentil, qu'il est juste. C'est quelqu'un qui est tellement simple, tu sais, qui fait vraiment pas de bruit en dehors des terrains. C'est peut-être pour ça qu'il a une image qui est peut-être pas au niveau du talent qu'il a et la saison qu'il est en train d'avoir. Parce que c'est un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison. Il y a aucun doute là-dessus. Ce qu'il fait encore hier, c'est dans les 1 contre 1, c'est assez incroyable. Son intelligence de jeu. Encore une fois, il a que 21 ans. Il est né en septembre. Donc il a eu 21 ans, il y a pas longtemps en plus, et de voir le niveau qu'il affiche à cet âge-là, c'est assez incroyable. Je pense qu'il n'y a aucune limite pour lui. Plus il va grandir, plus il va gagner en maturité, en expérience, et plus il sera fort. Il y a des moments où j'ai eu un petit peu peur parce qu'il commençait à prendre beaucoup de coups, tu sais, par les défenseurs adverses.
Ouais,
et
ouais,
j'ai eu peur qu'il change un tout petit peu sa façon de jouer, notamment les 1 contre 1. Et au final, voilà, on a retrouvé le vrai Saka là. Je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me rappelle de Daniel qui l'avait pas mis en chapeau 1. J'étais scandalisé. On avait raison, Chess, d'être scandalisé.
Bah oui.
On lui pardonne, tu vois, mais non, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable, et je pense qu'Arteta lui a fait beaucoup de bien aussi, la façon dont Arsenal joue, d'avoir Odegaard dans sa zone. Je pense que ça lui fait beaucoup beaucoup de bien aussi, mais non, c'est un joueur, je pense qu'on va se régaler pour les 10 prochaines années minimum.
Chess, t'es pas un voisin de Julien Laurence à Londres, non, t'es dans quel quartier à Londres?
Pas vraiment, non, Julien est dans le nord, moi je suis dans le sud-ouest.
Ah, tu sais où habite Julien? C'est magnifique, mais quelle star c'est Julien.
Ah oui,
c'est il habite, il y a des tours à Londres sur un bus, et this is the house of Julien Laurence.
Et puis quand il sera mort, il y aura un truc,
plaque.
Et alors, il y a déjà UP ou pas? C'est un quartier UP où il est?
Middle class,
c'est pas mal quand même.
Ça va, ça va. On se débrouille. On fait ce qu'on peut, hein. On se débrouille.
Ouais. On se débrouille. Merci, Chess.
En tout cas, dernier un petit mot avec Martinelli, Saka et Nketia. Arsenal à la MSN, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée, monsieur.
Bonne soirée à toi, Chess. Bonne soirée. On apprend à l'instant aussi, mais bon, c'est une confirmation, Julien. Hein. Jakub Kivior, hein, qu'on avait vu avec la sélection polonaise au mondial, notamment contre l'équipe de France, rejoint donc Arsenal, contrat jusqu'en 2028, pour 25 millions d'euros. Ça reste là aussi raisonnable. Après, c'est un jeune joueur à développer, quoi. 22 ans.
Vous en êtes à combien de centaines de millions d'euros?
Ah ouais, c'est très intéressant. Le bilan transfert hivernal Première Ligue.
Je sais pas.
On a dépassé le milliard, tu penses, ou pas? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Non, je crois quand même pas. Mais non, parce qu'il y a plein de clubs qui n'ont pas beaucoup recruté finalement comparé au mois de janvier précédent, je pense. Mais je vais vous trouver le numéro d'ici la fin de la.
Alors, il y a quelques jours, il y a 5 jours, la Première Ligue avait dépensé 320 millions d'euros devant la Liga 19, la Bundesliga 16, la Ligue 1 10 et pas la Serie A 6.
Pas mal.
Non, mais vous êtes des pauvres.
C'est un autre.
Et on est fiers d'être pauvres, Laurence. On est très fiers.
Ça sert à rien de donner ces chiffres-là pour les autres.
Polo, une réaction?
Des 10 millions par-ci, des 3 millions par-là, 50 euros.
A fait 50 un euros super recrutement avec Juranovic en provenance du Celtic Glasgow pour 8,5 millions. 8 millions et demi plus bonus. Donc moi, je suis heureux comme tout.
T'es heureux comme tout, ça suffit. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que l'Angleterre a dépensé 5 fois plus à elle toute seule que les 4 autres grands championnats.
Eh bien, bravo les Anglais. Ils ont bien vendu leur championnat depuis des années.
C'est beaucoup de Chelsea, hein, aussi. C'est beaucoup de Chelsea.
Bah oui, mais bon.
Chelsea tout seul, hein.
Reste avec nous, Génération After, dans un instant. Rapidement, Jeannot Segui avant la pause. Pays de Cassel, Paris Saint-Germain.
10 minutes de jeu, toujours 0-0. Un ballon déquitiqué pour Kylian Mbappé qui met le ballon au fond des filets. Le drapeau s'est levé. Il n'y a pas de VAR en Coupe de France avant les quarts de finale. Il était bel et bien en position de hors-jeu. Et au bout de la 6e minute, on a vu les amateurs avec Brunel, notamment l'ancien de Dunkerque, mettre un ballon en profondeur pour le Ganaz, l'attaquant et buteur de cette équipe. Mais voilà, c'est compliqué. Ils défendent. Et pour l'instant, ils défendent plutôt bien. 10 minutes de jeu, 0-0.
Génération After, on revient dans quelques secondes. À tout de suite.
Génération After.